VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 21 avril 2023. Au Soudan, d'intenses combats se poursuivent. Au premier jour de l'Aïd, la plus grande fête de l'islam, un employé de l'ONU a été tué. Les Comores n'entendent pas accueillir les personnes en situation irrégulière expulsées du département français de Mayotte. Le Tchad rappelle son ambassadeur au Cameroun pour consultation suite à un différend pétrolier.
C'est juste un conflit de gestion en matière d'intérêts lorsque les législations dans le secteur sont différentes d'un pays à un autre.
Les explications à suivre dans la partie magazine avec le journaliste Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Ici aux États-Unis, l'avenir de la pilule abortive se joue devant la Cour suprême. La Corée du Nord rejette l'appel à la dénucléarisation formulé par le G7. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Au Soudan, un humanitaire de l'Agence de l'ONU pour les migrants a été tué aujourd'hui dans les affrontements armés qui ont lieu depuis samedi, malgré les multiples appels au cessez-le-feu ignorés par les deux généraux rivaux au premier jour de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré du Ramadan. Le bilan établi par l'Organisation mondiale de la santé est passé ce vendredi à 413 morts et 3 551 blessés. Le point avec Jacques Aristide.
À Khartoum, militaires et paramilitaires continuent de se livrer à de violents combats de rue, alors que des frappes aériennes ont à nouveau fait trembler la capitale soudanaise, non loin du QG de l'état-major de l'armée que dirige le général Abdel Fattah al-Burhan. Face aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, de nouveaux hôpitaux ont été fortement endommagés. Au Darfour, l'une des régions les plus pauvres du Soudan, la situation est catastrophique d'après Médecins sans frontières. Quant à l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, elle confirme la mort d'un de ses employés à El Obeid, pris dans un échange de tirs entre les deux parties belligérantes. Trois employés du Programme alimentaire mondial ont également été tués la semaine dernière dans les combats. Les deux camps multiplient les annonces de victoire et s'accusent mutuellement d'avoir entamé ou rompu les nombreuses trêves promises. Des affirmations impossibles à vérifier sur le terrain tant le danger est permanent. L'Union européenne a dit multiplier les contacts pour obtenir un cessez-le-feu et pour pouvoir évacuer par voie terrestre ces quelques 1500 ressortissants. À Khartoum.
L'homme fort du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a promis aujourd'hui la libération d'au moins 12 hommes, dont 11 officiers de l'armée, accusés d'avoir tenté un coup d'État en décembre 2022. Le 5 janvier dernier, le gouvernement avait affirmé avoir arrêté à partir du 8 décembre 2022 11 officiers et un militant connu des droits de l'homme, Baradin Berdei Targio, présenté comme le cerveau d'une tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel et des institutions de la République. La police sud-africaine a démantelé aujourd'hui un campement d'une centaine de demandeurs d'asile installé depuis plus de 3 ans devant les bureaux du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Pretoria. Ces migrants avaient déployé des tentes de fortune devant le HCR pour demander à être relocalisés dans d'autres pays à la suite d'une flambée de violences xénophobes en 2019. La municipalité de Pretoria avait obtenu la semaine dernière le feu vert d'un tribunal pour les déloger. En Namibie, les descendants des descendants de victimes du génocide des peuples indigènes, Hereros et Namas, commis par l'Allemagne à l'époque coloniale, doivent se réunir ce week-end sur Shark Island, petite péninsule au large de la ville de Lüderitz qui abritait un camp de concentration. L'Allemagne a été responsable entre 1904 et 1908 de massacres de dizaines de milliers de personnes appartenant au peuple indigène Herero et Nama qui se rebellaient contre la domination coloniale. Au total, au moins 60 000 Hereros et environ 10 000 Namas furent tués entre 1904 et 1908. Les Comores n'entendent pas accueillir les personnes en situation irrégulière que Paris prévoit d'expulser du département français de Mayotte dans l'océan Indien à l'issue d'une vaste opération anti-migrants controversée prévue dans les prochains jours. Les précisions avec Jenny Niwa.
L'opération Wambushu de Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, vise à déloger les migrants illégaux des bidonvilles de Mayotte et expulser les sans-papiers, dont la plupart sont des Comoriens, vers l'île comorienne la plus proche, située à seulement 70 km. Le gouvernement français n'a pas donné de date précise pour le lancement de l'opération, mais quelques 1800 policiers et gendarmes sont déjà à Mayotte. Plus de 2500 personnels sont mobilisés. Les Comores n'entendent pas accueillir des expulsés issus de l'opération projetée par le gouvernement français à Mayotte, a déclaré ce vendredi Oumène Sadi, le porte-parole du gouvernement de Morini. Nous réitérons notre demande que le gouvernement français renonce à cette opération, a-t-il ajouté. Ces dernières semaines, Moroni a multiplié les appels au gouvernement français à annuler l'opération, disant ne pas avoir les moyens d'accueillir un afflux de migrants et accusant Paris de vouloir semer la violence.
Une cinquantaine de pêcheurs sont hospitalisés en Guinée à cause d'une mystérieuse maladie de peau provoquant des cas d'éruption cutanée, a indiqué ce vendredi le porte-parole du gouvernement. Des photos d'hommes, tous des pêcheurs ayant le visage, la bouche ou les membres atteints de nombreux boutons ont été diffusées sur les réseaux sociaux. En novembre 2020, un millier de pêcheurs sénégalais avaient été touchés par une maladie inconnue qui donnait les mêmes symptômes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer ce vendredi sur le sort de la pilule abortive dans le pays. C'est l'accès des femmes à la mifepristone sur tout le territoire qui est donc en jeu. Cette pilule est utilisée pour plus de la moitié des cas des IVG aux États-Unis. Alexandrine Ollognon.
Les juges examinent les arguments selon lesquels l'entrée en vigueur des restrictions contenues dans la décision des instances inférieures perturberait gravement la disponibilité du médicament, la mifepristone. Cette pilule s'est avérée à plusieurs reprises sûre et efficace et a été utilisée par plus de 5 millions de femmes aux États-Unis depuis que l'Agence des médicaments, FDA, l'a approuvée en 2000. La bataille judiciaire a commencé lorsqu'un juge fédéral au Texas, connu pour sa foi chrétienne et ses positions ultra-conservatrices et nommé par Donald Trump, a retiré le 7 avril l'utilisation de mise sur le marché de la mifepristone après avoir été saisie par des militants anti-avortement. L'issue de l'affaire est extrêmement incertaine et l'on ne peut prédire ce que la haute cour dominée par les conservateurs, qui l'an dernier a annulé la garantie constitutionnelle à l'IVG, pourrait décider. La pilule abortive n'est déjà plus disponible officiellement dans une quinzaine d'États américains ayant récemment interdit l'avortement.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit confiant dans le fait que l'Ukraine puisse regagner du terrain face aux Russes au moyen d'une possible contre-offensive pour laquelle Volodymyr Zelensky presse ses soutiens de livrer plus d'armes et de munitions. Réunis ce vendredi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, les alliés internationaux de Kiev passent en revue les différentes capacités, systèmes et fournitures dont les Ukrainiens ont besoin pour reprendre davantage de terrain, a expliqué M. Stoltenberg à la presse. La Corée du Nord a rejeté aujourd'hui l'appel du G7 à s'abstenir de tout nouvel essai nucléaire ou tir de missiles balistiques. Pyongyang réaffirme que son statut de puissance nucléaire est définitif et irréversible. Les précisions avec Mohamedou Mfa.
La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Cho Son-hui, a dénoncé la déclaration rendue publique il y a quelques jours de ses homologues du G7 qui avaient enjoint Pyongyang de s'abstenir, je cite, « de toutes nouvelles actions déstabilisatrices ou provocatrices » et l'avait exhorté à l'abandon complet, vérifiable et irréversible des armes nucléaires. La position de la République populaire démocratique de Corée en tant que puissance nucléaire de classe mondiale est définitive et irréversible, a martelé Mme Cho dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle KCNA. Pour la ministre, le G7, un groupe fermé d'une poignée de pays égoïstes, ne représente pas la communauté internationale de manière juste, mais sert d'outil politique pour assurer l'hégémonie des États-Unis. Pyongyang a récemment multiplié ses essais de missiles balistiques et avait déjà annoncé l'an dernier que son statut de puissance nucléaire était irréversible.
Dominique Raab, vice-premier ministre et ministre de la Justice en Grande-Bretagne, a annoncé aujourd'hui sa démission à la suite d'une enquête indépendante sur des accusations passées de harcèlement. Dominique Raab est le troisième membre du gouvernement à démissionner en raison de son comportement personnel depuis l'arrivée au pouvoir en octobre de Rishi Sunak, qui avait alors promis de diriger un gouvernement intègre.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, Altec a annoncé avoir levé 18 millions de dollars en capital de croissance pour élargir l'accès aux solutions énergétiques. Cela signifie que davantage de ménages, de communautés et d'entreprises pourront bénéficier de diverses sources d'énergie renouvelables, a déclaré le distributeur congolais qui envisage d'acheter 180 000 produits solaires, d'ouvrir de nouveaux magasins et de fournir de l'électricité à 900 000 personnes. Au cours d'une réunion à Pékin cette semaine, le président chinois Xi Jinping et son homologue gabonais Ali Bongo se sont engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie numérique, des infrastructures, de l'agriculture et du tourisme, entre autres, et ont assisté à la signature de plusieurs accords. La Chine est le plus important partenaire commercial du Gabon depuis 2016. En 2022, le commerce bilatéral a atteint 4,55 milliards de dollars, soit une augmentation de 50,8% par rapport à l'année précédente. Du 3 au 4 mai, l'université Mohamed VI Polytechnique organise avec l'université Aix-Marseille et le CNRS la 13e édition des tables rondes de l'art bois et de la Méditerranée à Aix-en-Provence, qui explorera les défis et opportunités de l'hydrogène vert pour une énergie décarbonée dans le monde. Selon les projections, l'Afrique, qui sera à l'honneur de cette édition, pourrait produire jusqu'à 50 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici à 2035 et fournir la moitié de cette production aux marchés mondiaux de l'énergie.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football africain, coup d'envoi ce soir des quarts de finale des compétitions continentales de clubs.
Oui, en déplacement à Alger, l'Espérance de Tunis affronte ce soir la JS Kabylie, championne de l'épreuve en 1981 et 1991. Demain, à Dar es Salaam, le Simba AC reçoit le Wydad AC, tenant du titre. Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud joueront contre le club algérien du CR Belouizdad et Al Ahly accueillera le Raja Casablanca dimanche. Ce sera le retour de la Coupe de la Confédération avec le club nigérien de Rivers United qui jouera contre Young Africans de Tanzanie. Pyramids FC d'Égypte recevra les Marumo Gallants d'Afrique du Sud. L'US Monastir affrontera l'ASEC Mimosa d'Abidjan et les Algériens de l'USMA en découdrant avec les Marocains de l'AS FAR.
Un fonds d'investissement luxembourgeois, Peninsula Capital, a fait l'objet d'une perquisition de ses locaux dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar.
Oui, selon l'hebdomadaire Marianne qui a révélé l'affaire, les enquêteurs français et luxembourgeois ont mené la perquisition à l'initiative du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, Serge Tourner. Il s'intéresse à d'éventuels mouvements financiers liés à l'ancien président français Nicolas Sarkozy via le fonds Peninsula. Selon une autre source proche du dossier, les enquêteurs se penchent notamment sur un mouvement de 3,3 millions d'euros.
L'Inter de Milan a déploré aujourd'hui que son attaquant Romelu Lukaku, victime de cris racistes, soit devenu le seul coupable après la confirmation de sa suspension, alors que celle frappant la tribune de la Juventus a été levée.
Oui, l'Inter a le grand regret de constater que la victime est devenue l'unique coupable, a annoncé le club dans un communiqué, alors que la cour d'appel de la Fédération italienne de foot a confirmé le match de suspension infligé au joueur belge averti une deuxième fois après avoir célébré son but sous les cris racistes. Le club turinois a obtenu mercredi l'annulation de la fermeture partielle d'une tribune de son stade par la même cour d'appel.
Play-off de la NBA, Philadelphie tout proche de la qualification.
Oui, les Philadelphia 76ers, après leur court succès contre les Brooklyn Nets 102 à 97 ce vendredi, au premier tour des play-offs de la NBA, grâce à un retournement de situation dans le dernier quart-temps. De son cas, une victoire donc de la qualification pour les demi-finales de la Conférence Est. Les Sixers, encore menés de 5 points à 2 minutes 15 secondes du buzzer, ont finalement battu les Nets sur le fil, dont les chances désormais d'aller au tour suivant sont bien minces.
Page d'espoir VOA Afrique, signé Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Pentagone dépêche des forces militaires près du Soudan pour aider, si nécessaire, à évacuer le personnel de l'ambassade des États-Unis à Khartoum, alors que les combats entre les paramilitaires et l'armée régulière se poursuivent dans le pays. L'Organisation mondiale de la santé fait état aujourd'hui de 413 morts et de 3551 blessés. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et d'autres dirigeants font pression pour un cessez-le-feu pour au moins quelques jours. D'autres détails avec Sandy Sen de la VOA. Le récit est signé Jacques Aristide.
D'intenses combats de rue ont eu lieu à Khartoum ce vendredi, malgré les multiples appels à la trêve ignorés par les deux généraux rivaux au premier jour de l'Eid ul-Fitr marquant la fin du Ramadan. À Washington, le porte-parole adjoint du département d'État affirme que les États-Unis condamnent fermement ces hostilités. Vedant Patel ajoute que son patron Anthony Blinken a été en contact avec les deux camps pour demander un cessez-le-feu.
Le département d'État s'y engage pleinement et nous continuons d'avoir l'entière responsabilité de notre personnel. Comme vous l'avez vu, le Pentagone, par l'intermédiaire du commandement américain pour l'Afrique, a dit suivre la situation de près et mener une planification prudente pour parer à toute éventualité. Il déploie des capacités supplémentaires dans la région si les circonstances l'exigent.
À la Maison-Blanche, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant une éventuelle évacuation du personnel de l'ambassade américaine au Soudan.
Pour l'heure, il s'agit d'exhorter les deux parties à mettre fin à la violence, à respecter un cessez-le-feu et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin. Il y a déjà des pénuries de nourriture, des pénuries de médicaments et d'eau. La situation est catastrophique à Khartoum et nous continuons à exhorter les deux parties à mettre fin à la violence.
Même requête formulée par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
J'appelle à un cessez-le-feu pour au moins trois jours, marquant les célébrations de l'Eid el-Fitr, afin de permettre aux civils piégés dans les zones de combat de fuir et de chercher de l'aide médicale, de la nourriture et d'autres provisions essentielles.
Jusqu'à 16 000 Américains se trouveraient au Soudan, hormis les quelques 70 employés de l'ambassade. Des troupes militaires américaines sont stationnées dans le pays voisin de Djibouti. Après la fermeture de l'aéroport de Khartoum et de la frontière avec le Tchad, les travailleurs humanitaires et d'autres personnes se retrouvent avec de moins bonnes alternatives pour quitter le territoire soudanais. L'administration Biden veut éviter une nouvelle évacuation précipitée après l'épisode afghan, d'après Cameron Hudson du Centre d'études stratégiques internationales à Washington.
Je pense que nous ne pouvons pas minimiser la comparaison avec l'Afghanistan, surtout avec des images d'Américains quittant une ville assiégée, des civils suppliant de sauver leur vie, d'être évacués avec les Américains et les travailleurs étrangers. Je pense que de telles images en Afrique seraient épouvantables pour les États-Unis.
À Port-Soudan, des habitants ont fui les combats à pied.
Le Tchad a rappelé pour consultation son ambassadeur auprès du Cameroun. Selon un communiqué rendu public le jeudi 20 avril par le secrétaire général de la présidence tchadienne, un désaccord lié au rachat des actifs de la société pétrolière américaine ExxonMobil, qui exploitait le pétrole tchadien, par Savannah Energy, une société autour de laquelle gravitent de nombreuses personnalités camerounaises, selon N'Djamena. Pour comprendre les enjeux autour de cette crise, Mouamadou Mfa a joint Idriss Linge. Il est journaliste économique et rédacteur en chef de l'agence Ecofin.
L'entreprise américaine ExxonMobil avait mené des opérations d'exploration et ensuite d'exploitation pétrolière dans la zone de Douba. Mais ce pétrole devait être transporté de Douba jusqu'au terminal pétrolier de Kribi, au sud du Cameroun. Chacun des pays avait des royalties sur la base des contrats spécifiques qui les rattachaient à ce projet.
Pourquoi est-ce qu'Exxon a décidé de partir du Tchad et de revendre ses parts ?
ExxonMobil a décidé de se désinvestir sur des actifs qui étaient peu rentables selon les exigences de ses investisseurs. Et donc, Doba faisait partie de la liste des actifs à un moment où la communauté internationale mettait la pression pour la réduction des investissements sur des énergies fossiles parce que c'est pas très bon pour le climat. Et les grands groupes comme ExxonMobil avaient décidé de se désengager progressivement des actifs qui ne rapportent rien et qui en plus leur créent un problème d'image. C'est comme ça qu'ils décidaient de céder cela à Savannah Energy, un groupe, enfin, une junior pétrolière, minière, énergétique, qui est cotée sur le marché alternatif de la Bourse de Londres.
Oui, parlons justement de cette acquisition. Hein. Le Tchad semble s'opposer à cette transaction. Pourquoi, selon vous?
Le Tchad aurait souhaité, dans le cadre de cette cession, toucher des royalties de cession. C'est ce qui est prévu dans le cadre de sa législation des hydrocarbures. Le Cameroun, lui, a organisé cette question différemment. Savannah Energy lui a donné un certain pourcentage dans l'actionnariat de la nouvelle entité qu'elle a récupérée sur le transport de pétrole. Et aussi, je pense qu'elle s'est engagée à faire des investissements dans le secteur énergétique camerounais. Le 23 mars, le Tchad a décidé de nationaliser le pétrole de Doba. On est entré dans une grosse série de disputes et finalement, le Cameroun, lui, a acquis ses 15% auprès de Codeco, ce que le Tchad a trouvé être ne pas approprié. Mais c'est juste un conflit de gestion en matière d'intérêt lorsque des législations dans le secteur sont différentes d'un pays à un autre.
Techniquement, le pétrole doit partir du Tchad pour le Cameroun. Quelles conséquences cette brouille peut avoir sur cette activité pétrolière et quelles sont les issues possibles selon vous?
Le Tchad ne peut pas aujourd'hui construire un pipeline qui va porter son pétrole et le vendre sur le marché mondial. Il ne peut pas l'exporter par des cargaisons d'avion. Ce n'est pas possible. Donc, même si le Tchad décide de se fâcher, il est quand même coincé par le fait que son pétrole doit arriver quelque part et rien n'oblige le Cameroun d'accepter que le pétrole tchadien passe sur son territoire. Mais de l'autre côté, le Cameroun a misé qu'il aurait plus de revenus sur le transport pétrolier, mais ce transport pétrolier ne peut générer aucun revenu si le Tchad n'est pas content et décide de ne plus parler avec le Cameroun. Le Tchad a plus à perdre parce que le pétrole représente une part importante de ses revenus budgétaires. Je crois qu'au final, ils vont s'entendre comme des braves et continuer de trouver des solutions.
C'était Idriss Linge, journaliste économique et rédacteur en chef de l'agence Ecofin.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Burkina Faso, le gouvernement a réagi à l'interpellation du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme le 6 avril dernier, notamment sa préoccupation face aux restrictions imposées aux médias et à l'espace civique au Burkina Faso. Le gouvernement rassure qu'il mettra tout en œuvre pour permettre le plein exercice des libertés à tous les Burkinabés. À Ouagadougou, les populations réagissent à cette question particulière de restriction des libertés. Cependant, les analystes, eux, pensent que le ton du gouvernement est cette fois-ci pondéré, modéré et policé. De la capitale burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré.
Dans sa note hier jeudi, en réponse au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le gouvernement dit réaffirmer son ferme engagement à assurer à tous les Burkinabés et à toute personne vivant au Burkina Faso sans discrimination aucune le plein exercice des libertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association telles que garanties par la Constitution et les conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est parti. En ce qui concerne les allégations de violation des droits humains qui seraient imputables aux forces de défense et de sécurité, le gouvernement rassure le haut-commissaire que des enquêtes sont ouvertes. Réaction à Ouagadougou.
Les droits de l'homme, je ne pense pas que cela est violé au Burkina Faso. Les droits de l'homme ne sont pas violés au Burkina Faso. Donc, chaque Burkinabé doit savoir que nous sommes en situation de guerre. Et en situation de guerre, tout ce qui est bon, tout ce qui est nécessaire pour gagner la guerre, il faut l'adopter.
Avec notre pays qui a fondé au CRI sécuritaire, nous voyons qu'il est impossible aux droits de l'homme, c'est-à-dire certaines personnes, de dire certaines vérités. S'ils permettent aux droits de l'homme de dire certaines choses, il va les perturber.
Nous voyons que le gouvernement est en train de mettre en place des initiatives qui permettent de réduire ses droits. Donc moi, je trouve ça normal. J'apprécie cette initiative. Et l'État doit mener certaines initiatives et rétrécir les droits pour un temps soit peu, pour que enfin nous puissions gagner la guerre. Ah bah, si nous finissons la guerre, nous pouvons réinstaurer ces droits bafoués. Je pense que ça va nous aider.
Cette analyste pense que le gouvernement, pour une fois, a un ton pondéré, modéré et policé. Adama Bayala, analyste politique.
Le gouvernement a changé de ton. Ce ton est pour le moins pondéré, modéré et policé. On le comprend aisément encore que le gouvernement envisage renforcer un dialogue constructif avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il envisage également respecter les droits élémentaires individuels et collectifs, pas seulement faire la lumière sur les allégations de violation des droits de l'homme au Burkina Faso. C'est déjà très bien.
Dans le communiqué, le gouvernement a réitéré sa disponibilité à maintenir un dialogue constructif avec le haut commissaire et son bureau et a dit rester ouvert à toute contribution en matière de renforcement des conditions de promotion et de protection des droits humains au Burkina Faso. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les musulmans du monde entier participent aux prières pour la fête annuelle de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré du jeûne islamique du Ramadan. Le jour est déterminé par l'observation du croissant de lune, conformément au calendrier lunaire musulman. Davantage avec Ginny Niwa.
Des milliers de fidèles au Qatar se sont précipités avant le lever du soleil au stade Education City, vendredi 21 avril, pour assister aux prières de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du jeûne du Ramadan. Souleymane Ba, coordinateur.
Je suis venu ici avec mon fils. Nous avons regardé le match Tunisie-Danemark. Oui, le match Tunisie-Danemark. C'était un cadre très charmant, très accessible. Dès que vous entrez par les portes, vous pouvez déjà voir le stade. Donc maintenant, au lieu de joueurs de football, vous savez, 11 contre 11, vous voyez peut-être 15 000 personnes ici, frères et sœurs, toutes ces familles et tous ces gens qui prient côte à côte et écoutent un beau sermon. Et encore une fois, cela nous rappelle d'apprécier ces moments spéciaux d'être ensemble, notre famille humaine, parce que la pandémie nous a appris une leçon. Vous savez, nous ne pouvions pas faire cela. Et pendant 3 ans, littéralement, les gens n'ont pas pu prier côte à côte. Même quand vous alliez à la mosquée, il y avait une distanciation sociale.
À Lagos, des centaines de personnes se sont réunies pour des prières en plein air, suivies de chants et de danses pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Aboubakar Memouna, commerçante.
Ce jour présent signifie un grand jour pour moi. Très, très grand. Je suis très heureuse. Louange à Dieu. Nous sommes vivants pour voir le début du Ramadan et jusqu'à la fin du Ramadan. Et c'est l'Aïd al-Fitr. Et nous sommes ici pour prier. Prier Allah, Tout-Puissant, pour garder notre vie du début à la fin. Nous disons gloire à Dieu.
Des prières collectives étaient organisées à travers le monde. Les imams ont fortement encouragé les fidèles à faire montre de fraternité, de charité et de compassion envers les plus pauvres.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
She taught me how to smile when things get rough.